avec l'Observatoire sociopolitique diocésain. Nous retrouvons Olivier Drapé. Bonjour et bonne année, Olivier.
Oui, bonjour Alexandre et bonjour aux auditeurs. Bonne et sainte année à tous.
Quel est le sujet que vous voulez aborder aujourd'hui pour les auditeurs de Radio Lapourdi ?
Alors le sujet, c'est « Faut-il inscrire l'avortement dans la Constitution ?» C'est un sujet d'actualité parce que en Conseil des ministres, le 12 décembre dernier, a été présenté un projet de loi qui précisément vise à inscrire la liberté d'avorter dans la Constitution française. C'est un texte qui doit être d'abord soumis aux députés au mois de janvier, aux sénateurs au mois de février, et qui pourrait être définitivement adopté par l'ensemble des parlementaires réunis en congrès au mois de mars prochain. Petite précision d'ailleurs, cette adoption doit donc passer par l'Assemblée à certaines dates bien précises. C'est dès le 17 janvier en commission, puis le 24 janvier dans l'hémicycle que le texte doit être examiné par les députés, avant d'être transmis au Sénat le 26 février en séance publique. Et c'est le 5 mars que le Parlement pourrait se réunir en congrès, auquel cas le texte devra être adopté à la majorité des 3/5 qui, a priori, ne pose pas de problème particulier pour son adoption. Alors, ce projet de loi auquel le président de la République tient apparemment par-dessus tout, aussi bien, je pense, par calcul politique et tactique que par idéologie, disons, vise à consacrer, alors non pas le droit, comme il était initialement prévu dans une proposition de loi de la France insoumise, mais la liberté d'avorter, comme l'a proposé le Sénat lorsque la proposition de loi de la France insoumise est venue dans cette haute assemblée. Mais en fait, cela revient, ou en pratique, cela revient quasiment au même. Quasiment au même, alors qu'en France, la liberté de recourir à l'IVG n'est aucunement menacée, objectivement. On peut même considérer que depuis la loi Veil de 1975, ce texte, cette liberté d'avorter s'est constamment élargie, étendue. Je rappelle d'abord que dans la loi Veil de 1975, dont l'article 1er précisait que la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie, l'avortement était considéré comme une exception au principe du respect de la vie dès son commencement. Et ensuite, eh bien, on a assisté à l'allongement du délai légal de l'IVG de 10 à 12 semaines en 2001, puis à 14 semaines en 2022, de même qu'il y a eu prise en charge intégrale par l'assurance maladie, abandon du délai de réflexion et des entretiens pré-IVG qui étaient prévus par la loi Veil, y compris pour les mineurs, suppression de toute référence à la situation de détresse de la femme en 2022, institution et extension d'un délit d'entrave à l'IVG dans les années qui ont précédé, etc. En conséquence de quoi, le nombre d'avortements en France n'a jamais été aussi élevé qu'en 2022, puisqu'il y a eu en 2022 plus de 234 000 IVG dans notre pays, alors que parallèlement le nombre de naissances ne cesse, lui, de diminuer. Doit-on pour autant considérer l'IVG comme une liberté fondamentale ? Alors, je dirais à cela que les associations qui s'efforcent de façon admirable souvent d'accompagner les femmes en difficulté ou les femmes enceintes en difficulté, ainsi que divers sondages, témoignent au contraire que cette prétendue liberté de choix est illusoire. Je m'explique. En réalité, la grande majorité des femmes qui recourent à l'avortement ne s'y résignent qu'en raison de difficultés économiques et financières auxquelles elles sont confrontées ou de pressions plus ou moins contraignantes qu'elles subissent, pressions psychologiques, pressions sociales, pressions économiques, souvent d'ailleurs de la part de leur entourage immédiat, que ce soit un conjoint, un employeur, etc. Et cela sans qu'aucune alternative ne soit proposée et sans qu'aucune politique de prévention de l'avortement ne soit envisagée. À propos de la possibilité d'envisager une politique de prévention de l'avortement, je me réfère à un sondage qui date un petit peu maintenant, il date de 2020, mais qui me paraissait très intéressant. Selon un sondage IFOP de cette époque, 73% des Français considéraient que la société devrait davantage aider les femmes à éviter le recours à l'IVG et 92% considéraient que cet acte laisse des traces psychologiques difficiles à vivre. Et je crois que c'est toujours d'actualité. En tout cas, cela fait dire à divers présidents d'associations telles que la Marche pour la Vie ou l'Alliance Vita que, en définitive, et en dépit du sentiment que peuvent donner certains médias, la seule liberté de la femme aujourd'hui menacée est en réalité la liberté de ne pas pouvoir garder son enfant. Quelles conséquences ce texte pourra-t-il avoir ? On nous dit que ces conséquences sont symboliques. Je crois pour ma part qu'il y aura des conséquences au-delà du symbole de l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Ces conséquences ne seront pas à proprement parler juridiques dans la mesure où juridiquement je pense que dans un premier temps ça ne changera pas grand-chose. Elles seront peut-être davantage politiques. Je m'explique. Le principal objectif, me semble-t-il, des promoteurs de ce projet de loi, c'est d'imposer à la société leur conception, leur vision des choses, à savoir que l'avortement est nécessairement un progrès qu'il convient de rendre, comme l'a dit le président de la République à plusieurs reprises, qu'il s'agit de rendre irréversible et absolument indiscutable. Comme si, au fond d'eux-mêmes, ils redoutaient qu'une partie de l'opinion ne finisse un jour par se souvenir ou par réaliser, et là je reprends peut-être des termes très très durs, réalistes, du Concile Vatican II, réalisait qu'un avortement est un crime abominable. C'est ce que disait la Constitution Gaudium et Spes du Concile, car l'avortement consiste, on l'oublie trop souvent, en l'élimination pure et simple d'un petit être humain. Et je complète en disant que l'avortement, par ailleurs, laisse pour la plupart des femmes, qu'elles le reconnaissent, qu'elles en aient parfaitement conscience ou non, dans un profond désarroi qui peut ressurgir parfois bien des années plus tard. Il est donc impossible que cette constitutionnalisation de l'avortement, qui en quelque sorte ferait de l'avortement une valeur suprême de la République, ne débouche à plus ou moins brève échéance sur la remise en cause de la clause de conscience spécifique des médecins et infirmiers qui refusent de pratiquer des IVG. C'est ce que redoute effectivement, à juste titre, je crois, un certain nombre de juristes. J'en cite un, le juriste Grégor Pupin, qui est à la tête de l'ECLJ, Centre européen pour la justice et le droit, qui a écrit récemment « Si le droit à l'accès effectif à l'avortement est inscrit dans la Constitution, le Conseil constitutionnel pourra être amené à le mettre en balance avec la liberté de conscience. » Au détriment, on l'a bien compris, de cette clause de conscience des professionnels de santé. Et il est également inévitable, à mon avis, qu'elle ne finisse cette inscription de l'avortement dans la Constitution, par menacer la liberté d'expression elle-même, en tout cas la liberté d'expression des personnes et des associations qui combattent l'avortement ou sa banalisation actuelle. Je me permettrai là aussi de citer un extrait intéressant d'un commentateur politique, Aristide Renoux, dans Politique Magazine, il y a quelques semaines. Il écrivait « Derrière la liberté des femmes, protégée par la Constitution, viendra le pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Car assurément, si l'avortement est incorporé à la Constitution, c'est qu'il doit être un des fondements de notre République et par conséquent, questionner la légitimité de l'avortement revient, même implicitement, à mettre en question la République. Une fois l'avortement inscrit dans la Constitution, la prochaine étape sera donc de faire de la critique de l'avortement l'équivalent de l'incitation à la haine et à la discrimination. » Alors je crains qu'il n'ait raison, tout en espérant bien entendu qu'il ait tort. Pour terminer, et, comment dire, enrichir notre réflexion sur ce sujet délicat, je serais assez tenté de rappeler un certain nombre de déclarations récentes de l'Église ou de représentants de l'Église, en commençant par la déclaration des évêques de France réunis à Lourdes en assemblée plénière le 7 novembre 2023. Un extrait que je cite, « Le commandement biblique « Tu ne tueras pas », inscrit dans toutes les consciences au-delà de celle des seuls croyants, signifie que tout être humain est confié à la sollicitude de tous les autres. Nous ne devons pas affaiblir la force d'un tel repère. Ces enfants à naître, nous en sommes d'une certaine façon tous responsables. Ainsi, le vrai progrès réside dans la mobilisation de tous, croyants et non-croyants, pour que l'accueil de la vie soit davantage aidé et soutenu. La vraie urgence est d'aider au moins les couples ou les femmes qui aujourd'hui n'ont pas réellement le choix et estiment de pouvoir garder leur enfant en raison des contraintes sociales, économiques, familiales qui pèsent sur eux ou sur elles et trop souvent sur les femmes seules. Et d'autre part, le pape François, à l'occasion des vœux au corps diplomatique au Vatican lundi 8 janvier 2024, je le cite, « Le chemin de la paix exige le respect de la vie de chaque vie humaine, à commencer par celle de l'enfant à naître dans le ventre de la mère qui ne peut être supprimée ou devenir un objet de commercialisation », a-t-il précisé, faisant allusion au problème des mères porteuses et de la GPA que nous aborderons certainement dans une future chronique de l'Observatoire sociopolitique.
Merci beaucoup Olivier Drapé et nous vous retrouvons le mois prochain. Avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.